Bonsoir et bienvenue dans cette émission 16 février 2025, 16 février 2026. Un an après que la rébellion de la CM23 ait pris le contrôle de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, et cela sans combat. La Bralima, le programme alimentaire mondial PAM en sigle, ainsi que plusieurs dépôts et magasins de cette ville avaient été systématiquement pillés. La prison centrale de Bukavu était aussi vidée. Des tueries et enlèvements, les vols à main armée, ça et là, banques fermées, taxes et impôts imposés. Dès lors, ce mouvement rebelle a installé sa propre administration et gère la ville à sa guise. Une année après l'occupation de Bukavu, les habitants du Sud Kivu se trouvent dans le désarroi, le désespoir. Ils souhaitent voir les accords de Washington et de Doha contribuer à la pacification de la ville et de toute la partie orientale du pays. Quelle analyse faire de la situation socio-économique et sécuritaire une année après l'occupation de Bukavu par l'AFC M23? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons dans cette émission ici au studio Grégoire Mirindi qui est notable de la ville de Bukavu ou du Sud Kivu. Il est député national honoraire. Il est président du parti politique dénommé Juste Patriote pour la République, JPR en sigle, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Bonsoir honorable Grégoire Mirindi. Charangabo.
Bonsoir, bonsoir, cher ami Guimaté.
Amos Bissimwa, il est membre de la société civile du Sud Kivu. Il a fait partie du mouvement citoyen Observatoire d'action parlementaire et gouvernementale en RDC au PAPG en sigle. Bonsoir, Amos Bissimwa.
Bonsoir, cher Guimaté. Je tiens à saluer les nombreuses auditrices et auditeurs de la radio Papi. Je salue l'honorable ministre Charangabo présentement au studio.
Et Bob Kabamba, il est politologue et professeur à l'université de Liège en Belgique. Bonsoir professeur Bob Kabamba. Voilà, on me signale qu'il n'est pas encore là. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
On le disait, 16 février 2025, 16 février 2026, cela fait une année depuis l'occupation de la ville de Bukavu par les rebelles de l'AFC M23. Ce jour-là, la ville de Bukavu passait entre les mains des rebelles sans la moindre résistance. Les forces de sécurité de la République avaient abandonné la ville un jour avant l'arrivée des rebelles. Depuis lors, le calvaire des habitants s'accumule chaque jour. Retour sur les faits avec vous, Jean Kassami.
Le 16 février 2025, tout Bukavu était plongé dans une psychose indescriptible, des armes abandonnées entre les mains des mineurs civils crépitaient de partout. La confusion s'est installée et la population était traumatisée. Chacun est resté terré chez soi, ne sachant pas avec exactitude d'où provenait le crépitement des balles. Nombreux habitants se rappellent de cette journée avec beaucoup d'émotion. Aujourd'hui, une année après, la situation est loin de s'améliorer. Les parties belligérantes renforcent leur position au front. Le gouvernement, tout comme les rebelles, continuent à déployer leurs forces, surtout dans la partie sud, dans les hauts plateaux de Minembwe. Les affrontements s'y déroulent sans désemparer. Les FRDC, soutenus par les Wazalendo, se battent contre les groupes armés Furanero-Gumino-Android alliés à l'AFC M23 RDF dans les hauts plateaux des territoires de Fizi et Mwenga. Et c'est malgré les accords de paix signés à Washington et à Doha, lesquels les accords, la population du Sud qui vous souhaite voir contribuer au retour de la paix à l'est de la RDC. Jean Kassami, Radio Okapi.
Merci à vous Jean Kassami. Aujourd'hui la population de Bukavu vit miraculeusement dans une ville plongée dans une inertie totale sur le plan socio-économique. Toutes les institutions financières telles que les banques et les institutions des microfinances ont fermé leurs portes quelques jours avant l'occupation de la ville par la rébellion. Le peuple est voué au chômage. Les services étatiques ne fonctionnent plus hormis quelques sociétés et services générateurs des revenus comme la Régie des eaux, la DGI et la DGRAD pour ne que cela. Mais là aussi, les employés se plaignent du non-paiement de leur salaire par les autorités de facto. Radio Okapi a promené son micro dans les rues de Bukavu pour recueillir les avis de la population. On suit cela.
La situation sociale de la population s'est considérablement dégradée suite à l'absence de l'autorité de l'État. les rebelles étant incapables d'améliorer les tissus économiques de la population, mais qui ne font que piller au jour le jour le peu de moyens économiques qui nous restent aujourd'hui.
L'économie souffre gravement à Bukavu avec la fermeture des banques, les prix de produits de base qui ont fortement augmenté, les agents de l'État qui ne travaillent plus. Nous observons également la vente de parcelles de l'État, des maisons de l'État, la fermeture de nombreuses entreprises.
Nous ne savons pas où nous allons. Une année où on est condamné à s'adapter à la situation malgré nous.
Évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à mieux que ça. On connaît la pratique. On a vécu la guerre de l'AFDEL, les RCD, les autres rébellions, patati patata, les M23, etc. 1, 2, on ne sait pas, on est à combien aujourd'hui. C'est la déception totale.
On est frustré, on ne sait pas si la situation va un jour changer.
Les gens de Bukavu vivent dans une peur constante, des violences physiques, des tueries, ça et là.
Amos Missimoi, on commence avec vous, hein, étant donné que vous êtes dans la ville. Je rappelle que vous êtes membre de la société civile du Sud Kivu. Vous faites partie, n'est-ce pas, des mouvements citoyens Observatoire d'action parlementaire et gouvernementale en RDC, OPABG en sigle. Une année après l'occupation de Bukavu par la SN23, quelle analyse vous faites d'abord de la situation socio-économique? D'abord la situation socio-économique.
Merci pour la parole accordée, cher Guy Martin. J'étais d'abord à corriger que c'est l'OBAPES RDC, mouvement citoyen OBAPES RDC.
Ok.
En fait, de prime abord, je dois dire sincèrement, et tout le monde le sait, que le peuple congolais, et plus particulièrement le peuple de l'Est, nous n'avons jamais donné mandat à l'AFCM23 ou à d'autres groupes armés très actifs aujourd'hui partout au pays et qui les gèrent, mais plutôt nous avons donné mandat au régime Félix qui malheureusement a failli à sa mission. La première mission de tout régime responsable, c'est la sécurité de sa population, de ses biens, mais aussi la protection de l'intégrité territoriale. Notre constitution est claire. Même un centimètre qui n'est pas géré par la République ou par le régime.
Amos Missimoi. Apparemment, un problème de connexion. Amos Missimoi, est-ce que vous êtes toujours là? Amos? Nyangasa, est-ce qu'il est là? Voilà. Voilà, je crois qu'il y a un problème de connexion. On donne la parole à Grégoire Mirindi Charangabo, il est notable de la province du Sud Kivu, député national honoraire. Vous êtes président du parti politique dénommé Juste Patriote pour la République JPR, en sigle, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. C'est quoi aussi votre lecture de la situation d'abord socio-économique dans la ville de Bukavu, une année après son occupation par la rébellion?
Merci beaucoup. Monsieur Guy Maté, pour l'opportunité que vous m'offrez et surtout pour l'intérêt que vous affichez chaque fois que vous en avez l'occasion pour votre radio, m'associer au débat. Je voudrais d'abord corriger, peut-être nous en avons déjà l'habitude de parler des rebelles. Moi j'ai été à Goma, il n'y a pas de rébellion chez nous, il n'y a que l'agression. J'ai toujours souligné ça. Et ce manque de constance dans la qualification des choses pose même de sérieux problèmes à ceux qui négocient pour nous. Parce que le régime juridique d'une agression et le régime juridique d'une rébellion sont deux choses différentes. La rébellion, ce sont les enfants de la maison qui se rebellent, et l'agression, c'est l'effet des pays étrangers d'occuper en tout ou partie un territoire donné. Voilà, je reviens maintenant au sujet, la question ou la problématique socio-économique. Moi, j'ai été à Goma quand Goma tombe. Et Goma tombe le 26 février. J'étais là. Je quitte Goma, j'arrive à Bukavu.
pendant que je suis à Bukavu.
Le 26 janvier, Goma.
Goma tombe, j'étais à l'aéroport, c'était un dimanche.
Le 26 janvier.
Février.
Goma.
Goma. Février. La ville, je parle bien de la ville.
Oui.
J'étais là, à l'aéroport le 26, c'était un dimanche, si je ne m'abuse. Nous attendions un vol qui devrait venir de Kinshasa pour nous prendre.
Okay.
Le vol a été annulé et nos militaires et les civils blessés nous ont rencontrés à l'aéroport. Et sauf qu'il peut chacun a pu se débrouiller pour rejoindre sa résidence ou un abri quelconque. Et donc, arrivé à Bukavu, quelques jours après, les pillages commencent dans cette province à partir de Katana. On pille Katana, on pille Kavumo, le centre de négoce de Kavumo, et on progresse jusque dans la ville. La ville tombe à Bukavu, je n'étais plus dans la ville, ça je dois l'avouer. Mais au moins, à Katana, je crois qu'il y a le notable Bahati Lukwebo, l'honorable Bahati Lukwebo, qui a beaucoup investi. C'est beaucoup vraiment investi, à doter des infrastructures qui valent la peine à la population. On n'a pas détruit les structures, mais tout a été pillé. Nous avons l'usine d'été de Madaga. Tout a été pillé, l'outil de production. Dans la ville de Bukavu, sur le plan social, la population est terrifiée par la présence des militaires rwandais. Les gens n'ont plus des droits et n'ont que d'obligations. Et finalement, la propriété privée n'existe plus. Tout est régenté, tout. La situation est prise en main par la rébellion. Les privés, on a pillé leurs véhicules. L'État, on a pillé et les archives, et les outils de production, et les équipements pour les bureaux. Tout a été pillé. À la SNL, à la régie des eaux, c'est chaque soir qu'on doit rendre compte. Les recettes doivent traverser pour aller de l'autre côté. Vous arrivez dans les marchés des Kadou, tous les plus grands marchés. Tout a été pillé. Vous arrivez au niveau même de la paie aujourd'hui, les rares personnes ou fonctionnaires ou agents même localement qui dépendent des universités, tout ça. Il y a un système aussi, vous devez être capable de consentir 10% de votre salaire pour accéder à la différence. Et donc, tout ça fait que les gens sont totalement asphyxiés. Et maintenant, ce qui rend...
Et comment ils arrivent à résister?
Bon, dans tous les cas, à Bukavu, comme vous le savez, les gens ont refusé depuis la guerre d'abandonner la ville. Quelle que soit la force, les gens ont levé cette option. Ceux qui meurent, ceux qui vivent, ceux qui restent, ceux qui résistent. Mais dire qu'on peut encore évacuer la ville comme c'était le cas sur l'Est, c'était les gens ont refusé. Ils vivent par solidarité. Ils vivent aussi par débrouillardise. Parce que maintenant, le grand problème sur le plan économique, c'est lequel? C'est que le commerçant de Bukavu qui exporte leurs marchandises et qui doivent les écouler sur les marchés à Bukavu font concurrence aux commerçants rwandais et des autres pays qui sont exonérés des taxes et de tous les autres frais de douane. Donc, vous êtes congolais, vous avez votre magasin, vous payez tous les droits, une multitude de taxes et d'impôts, et vous faites concurrence à un Rwandais qui ouvre son magasin à Bukavu.
Et qui est exonéré.
Qui est exonéré. Il ne paie pas la douane, il ne paie pas la taxe. Conséquence, les gens ferment. Et quand les gens ferment, c'est l'économie locale qui est totalement exsangue. Et finalement, la crise prend un corps, ça devient une crise structurelle. Moi, je vais vous dire que je suis à Calais, par exemple. Il y a des entités qui ont fait 4 mois. Je parle de la route qui mène vers Bunyakiri, si vous voyez, donc qui va jusqu'à Kisangani. Donc là, c'est une partie de Ninja, Kalonge, Bunyakiri, jusqu'à Walikale. 4 mois, sans véhicule, donc il n'y a pas de sel, il n'y a pas de... ce qu'on appelle le blocus, embargo total. Pas de sel, pas de savon, pas de motard, pas de piétons. C'est avant-hier, après que les gens qui sont restés à Bukavu étaient devenus presque des délinquants, que finalement, les Rwandais ont autorisé que quelques motos puissent traverser pour aller de l'autre côté. Et à certains endroits, cette corbeille, la petite corbeille là des tomates, de sel revenait déjà à 5 000 francs. Et donc, vous comprenez, tous les gens qui étaient malades, qui étaient en nécessité de pouvoir se faire soigner à Bukavu, tous sont morts. Ils sont morts parce qu'il n'y a pas moyen de les transporter. Et donc, vous comprenez à quel niveau la guerre nous amène, hein? Ça devient une guerre qui ne respecte pas les droits internationaux humanitaires, qui ne respecte pas les droits humains. Et finalement, pourquoi les gens doivent payer ces prix? Vous êtes déjà là, et les gens ne vous suivent pas jusque dans la ville, mais non, il faut tout simplement, parce que les gens résistent, il faut même les priver du minimum. Et voilà un peu la situation telle qu'elle se présente.
Voilà, ça c'est la situation socio-économique. Hein. J'apprends que Amos est revenu. Amos, vous êtes là? Amos Bissimoa, vous êtes là? Amos, vous êtes là? Professeur Bob Kabamba, est-ce que vous êtes là? Amos, vous êtes là?
Oui, je suis là. Je vous ai dit qu'il fallait m'appeler sur la chaîne normale.
Ok, allez-y d'abord. Vous étiez en train d'analyser la situation socio-économique de la ville de Bukavu aujourd'hui. Allez-y.
Ok, merci bien. J'étais en train de dire que nous n'avons jamais donné mandat, que ce soit à l'AFCM23 ou à beaucoup d'autres groupes armés pour nous gérer. Nous avons plutôt donné mandat au régime Félix. Malheureusement, un régime qui a failli à sa mission. Pourquoi je le dis? Parce que, comme je le disais tantôt, la première mission régalienne de tout régime responsable, c'est la sécurité de sa population, de ses biens, mais aussi la protection de l'intégrité territoriale. Ce qui n'a pas été le cas. Parce que quand cette guerre a commencé, au niveau de Bunagana, nous avons alerté comme acteurs sociaux. Nous avons dit qu'il y a un danger et nous risquons de vivre le pire. Notre gouvernement ne nous a pas entendus. Le gouvernement est resté dans la gestion des jouissances, dans la gestion arrogante, jusqu'à ce que les rebelles du M23 ont avancé de Bunagana, Masisi, Goma, Bukavu, Uvira. À cela s'ajoute la gestion médiocre du pays dans presque tous les domaines de la vie. Je parle seulement de quelques cas. La justice manipulée, politisée, tribalisée.
Amos Bissimoa.
Les gens du gouvernement, je vais y arriver.
Amos Bissimoa, nous sommes en train d'analyser la situation socio-économique dans la ville de Bukavu. Une année après l'occupation de cette ville par la rébellion. Restons dans ce sujet-là.
C'est là que je vais.
Oui.
Et maintenant, avec la dérive dictatoriale, c'est là que je vais. On a suivi le chef de l'État qui a dit à Lubumbashi, par rapport au changement de la Constitution, personne ne peut l'empêcher. C'est ce qui a fâché, que ce soit les M23, que ce soit beaucoup d'autres groupes armés. Maintenant, le 7 février, L'AFCM23 est arrivé à Bukavu. J'étais à signaler qu'avant que l'AFCM arrive, 3 jours avant, nos militaires avaient déjà fui la ville. Et pendant 2 jours, nous avons vécu une psychose qui ne dit pas son nom, où on a vu des enfants des militaires auxquels on a reçu des armes, avaient tiré.
Amos Bissimoa, vous n'êtes pas en train de rappeler, vous ne rappelez pas, n'est-ce pas, l'épisode qui a suivi l'entrain de la rébellion dans la ville. On est en train d'analyser la situation socio-économique aujourd'hui. On n'a pas assez de temps.
Sur le plan sécuritaire d'abord.
Non, socio-économique d'abord.
Socio-économique. C'est dans ce sens-là que je parle de la sécurité. Parce qu'on ne peut pas parler du développement quand il n'y a pas de sécurité.
Parlons de la situation socio-économique.
Socio-économique, sur le plan social, nous tenons d'abord à saluer la salubrité dans la ville. Parce qu'aujourd'hui, vous arrivez à Bukavu, le salon imposé par l'AFCM23, tout le monde salit. Chaque samedi, de 8h à 11h, la ville est devenue propre par rapport à ce qu'elle était dans les temps. Nous recevons des informations qui chassent aujourd'hui est trop sale. Mais vous arrivez à Bukavu sur ce point, on doit saluer la situation de la
À mon suivi, on ne va pas se disperser. Oui. Hein. Écoutez, dans une ville où les banques ne fonctionnent pas, les coopératives ne fonctionnent pas, les gens n'ont pas de boulot, comment ces gens vivent? Vous qui vivez là-bas avec, avec tout le monde, comment vous vivez là-bas? Voilà, c'est ça notre préoccupation. Allez-y.
C'est le deuxième point que je voulais évoquer. Sur le plan économique, vraiment, nous devons nous le dire, rien ne va. La population souffre. Depuis qu'on a fermé les banques, il n'y a pas de coopérative qui fonctionne. Il y a une autre problématique. Il y a beaucoup de voies, beaucoup de routes qui sont bloquées. On ne peut pas faire aujourd'hui Mwenga. On ne peut pas faire aujourd'hui Bunyakiri, Kalonge. Et pour ça, ce sont ces entités-là qui approvisionnaient la ville. Des fois, les motards, les véhicules sont bloqués du côté de l'AFC, d'autres sont bloqués du côté force gouvernementale et Wazalendo.
Et nous apprenons aussi, on apprend que même l'honorable Grégoire Mirindi l'a relevé ici, on apprend que la population est soumise, n'est-ce pas, à des nouvelles taxes, à des nouveaux impôts. Est-ce que vous confirmez cela?
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que d'abord, les éléments que j'ai, on a réduit le nombre de taxes qu'on payait bien avant. Ça, je dois signaler. Moi, je suis acteur social, je n'ai pas de parti pris. Et je dois le dire clairement. Mais sur le plan économique, comme je le disais tantôt, il y a des familles aujourd'hui à Bukavu qui passent la nuit sans prendre quelque chose. Une telle situation qui peut se passer à Bukavu. Que peut-on dire de nos compatriotes qui vivent dans nos territoires? Là, c'est catastrophique. C'est catastrophique.
Et sur le plan sécuritaire dans cette ville de Bukavu, est-ce qu'on continue à assister à des tueries comme cela s'est passé souvent et puis à des enlèvements?
Non, je dois le dire juste au début, un mois, deux mois, nous avons vécu les calvaires sur le plan sécuritaire. Parce qu'il y a même des journées où on ramassait autour de 14 morts dans la ville. Mais trois mois après, la situation s'améliore au fur et à mesure. Parce qu'on ne ramasse plus de corps sans vie, comme c'était le cas dans les camps. Mais aussi, il n'y a plus de maisons de nos paisibles, de notre paisible population qui sont attaquées, comme c'était le cas dans les camps. Mais comme je voulais le dire, la population de l'Est, et plus particulièrement celle du Sud Kivu, nous continuons à attendre les résultats de ces accords de Washington, de Doha, pour qu'il y ait la paix définitive.
Merci.
Et cela avait été proposé plusieurs fois. Ça a été proposé plusieurs fois qu'on dialogue avant que le pire n'arrive. Mais comme je le disais tantôt, avec la gestion arrogante, on n'a pas compris nos alertes comme acteurs sociaux qu'il fallait qu'on... Parce que si on devait dialoguer à partir de Bounagan, Guy Maté, on arriverait au stade où nous sommes aujourd'hui. On n'arriverait pas au stade où nous sommes aujourd'hui.
Merci,
mais comme notre gouvernement n'a pas voulu nous comprendre, et je suis content comme l'honorable Tcharangabo est présent au studio, qui est membre de l'Union Sacrée. Qu'est-ce qu'ils se disent au sein de l'Union Sacrée par rapport à la situation qui se vit à l'Est? Voilà pourquoi nous avons toujours dit, nous, acteurs sociaux, qu'apparemment, le régime en place aurait sacrifié la population de l'Est.
Merci.
C'est pourquoi nous vivons la situation que nous vivons aujourd'hui.
Voilà, il va vous répondre, honorable Grégoire Mirindi Tcharangabo va vous répondre. Honorable, et après votre lecture sur la situation socio-économique, c'est quoi votre lecture sur la situation sécuritaire, hein? Vous venez de suivre Amon Sebissimoa qui est dans la ville de Bukavu aujourd'hui et qui lui estime que cette situation s'est améliorée. Est-ce que vous partagez cette opinion?
Je voudrais quand même mettre un peu, placer les mots par rapport à ces extrapolations vis-à-vis de Tshisekedi, du régime. Je crois que nous, les Congolais, nous avons un problème. Le problème de paix et de sécurité en RDC, c'est un problème structurel. Il ne suffit pas de pointer les chefs de l'État, fit-il, quelle que soit sa force. Ce pays, c'est un pays qui a été créé dans une maternité internationale. C'est un pays où commence finalement
la mondialisation même du commerce. Il faut lire l'histoire et lire les travaux de ceux qui étaient à la conférence de Berlin pour comprendre comment les grandes puissances à l'époque s'étaient convenues sur l'avenir de ces pays. Donc même si Amosi venait à Kinshasa pour nous diriger comme président, il ne peut pas me dire que les problèmes structurels, il va les corriger par des solutions conjoncturelles.
Voilà, revenons aussi
au jour. Hein. Sinon, le président de la République, il est le premier qui, non seulement il voyage, mais il replace les pays dans l'orbite de soi de la diplomatie. Il essaie de pointer les vrais acteurs étrangers et les vrais acteurs en Afrique.
Voilà. C'est quoi, selon vous, c'est quoi la situation sécuritaire aujourd'hui dans la ville de Bukavu?
Comme il a dit lui-même, il est sur place. La situation est catastrophique. Qu'est-ce que vous appelez sécurité? La sécurité, d'abord, c'est l'intégrité de la vie humaine. C'est une sécurité aussi psychologique. Déjà, quand il vous dit lui-même que les gens ne mangent pas, quelqu'un qui a fait quelle sécurité, vous voulez le haut? Parce que même par la faim, les gens meurent à petit feu. Les gens ne circulent pas librement. Les gens ne commercialisent pas librement. Les gens, je vous ai dit qu'il y a des territoires totalement qui sont déconnectés de la ville. Donc, le mouvement des vents et vieux, les droits d'aller et de venir n'est plus garanti. Le commerce maintenant est orienté vers l'Est. L'Est, quand je parle de l'Est, ce n'est pas l'Est comme les gens ont l'habitude de parler de l'Est et de la RDC. C'est encore une expression que moi je ne partage pas. Nous sommes dans la partie orientale, mais nous ne sommes pas dans la partie Est du Congo. Le Kivu, c'est la partie orientale. Ça n'a rien à faire avec l'Est. L'Est du Congo, ce sont les États de l'Est. Et donc, par rapport à cette problématique, la question sécurité reste fondamentale. Et je suis d'accord que les chefs de l'État y travaillent. Et il y travaille, c'est pourquoi justement nous avons récupéré Uvira. Sinon, peut-être qu'on parlerait d'autre chose maintenant. Sinon, sur le plan sécuritaire, il y a eu multiplication des enlèvements. Il le sait, les enlèvements, des arrestations. Nous sommes dans une zone où la justice n'existe plus. On a créé ce qu'on appelle des juridictions arbitrales. On ne connaît pas quel code ils utilisent, on ne connaît pas les magistrats qu'ils utilisent, on ne connaît pas la procédure, on ne connaît rien.
C'est quoi les sorts des gens qui sont arrêtés?
Personne ne sait. Parce qu'on vous envoie des invitations par moment qui ne sont pas... On met les sceaux, on vous demande là où vous devez être, les motifs n'est pas indiqué. Donc, c'est du désordre. Une insécurité, d'abord ça c'est déjà le comble de sécurité. Lorsque quelqu'un vous appelle devant une juridiction... Vous ne savez pas ce que la nature de la juridiction, la qualité des juges, l'objet pour lequel on vous appelle devant la juridiction, c'est déjà un problème. Et toutes ces situations-là sont très très bien connues. Il y a la recrudescence des vols. Quand je vous dis que toutes les jeeps, il le sait, les jeeps, les véhicules, tout celui qui avait une jeep à Bukavu, qu'il nous montre des images, combien de véhicules circulent. Tout traverse le Rwanda. Et d'autres ont démonté, d'autres ont même vendu les pièces pour qu'ils ne meurent pas à cause des véhicules. Donc la situation, elle est dramatique.
Merci. Elle est dramatique. Merci. On me signale que le professeur Bob Kamamba est là. Professeur Bob Kamamba, bonsoir.
Bonsoir, Alain Rung.
Non, c'est Guy Maté. Voilà, je rappelle...
Oui, Guy Maté, exactement.
Vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Quelle est votre lecture par rapport d'abord à la situation socio-économique de la ville de Bukavu une année après son occupation par la rébellion de la FCM-23?
Alors, lorsque l'on essaye de remettre dans le contexte de la partie maintenant qui est occupée par la FCM-23, c'est que le système ne fonctionne pas. Quand je dis le système ne fonctionne pas, on a un espace de plus ou moins plus de 50 000 km² pour plus ou moins 100 000, pour 10 millions d'habitants qui doivent être gérés. Mais il faut un système étatique pour que ça puisse fonctionner. Mais lorsque l'on regarde ce qui est en train de se passer sur le terrain, en fait le système ne fonctionne pas puisque tout simplement les outils de production qui vont permettre de pouvoir faire fonctionner cet État sont en léthargie, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pratiquement pas. Donc les capacités de production, les quelques outils de production qui existaient avant, qui permettaient d'avoir une structuration économique, n'existent plus. Et comme ça n'existe plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de pouvoir avoir des effets économiques et qui permettent à ce que les choses puissent fonctionner correctement. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'au-delà de ça, c'est qu'il y a tout le système financier qui doit accompagner tout fonctionnement classique et normal qui est aussi bloqué du fait que les banques ne fonctionnent pas. Et donc, quand on dit les banques ne fonctionnent pas, ça veut dire, grosso modo, que tout le système qui est lié à la structuration de l'État sont en panne. Et là, on arrive à des situations où il est pratiquement maintenant impossible de pouvoir avoir des conditions normales de fonctionnement. Et là, on a comme conséquence le chômage qui augmente. Et quand le chômage augmente, c'est-à-dire que la précarité augmente aussi. Et quand la précarité augmente, c'est-à-dire aussi que les gens ne sont plus à mesure de pouvoir subvenir à leurs besoins, sans plus se soigner, etc., etc. Et c'est ça, en fait, la, le problème qu'il y a, qui y a aujourd'hui, de ce que je lis dans les différents rapports et les différents témoignages qui nous reviennent de la ville et qui font état donc de ce de cette situation. Alors ça, c'est lié aussi au fait maintenant que lorsqu'il y a ce blocage au niveau de ce que je viens d'expliquer en termes de structuration, les gens doivent chercher des solutions. Et quand les gens doivent chercher des solutions, on sait très bien que Bukavu est une ville qui a une société civile assez forte. On l'a vu par exemple au moment où la chute de la ville s'est passée, c'est la société civile et l'église catholique en tête qui avait quand même empêché qu'il puisse y avoir la guerre ne puisse se passer au sein donc au sein de la ville et a occasionné autant de morts. Et lorsqu'on a des problèmes, effectivement, ils se réorganisent. Alors, comment est-ce qu'ils se réorganisent? C'est que on cherche maintenant à trouver des solutions. Malheureusement, les solutions sont tournées vers où? Sont tournées maintenant vers les pays étrangers et qui doivent maintenant apporter des solutions parce qu'il n'y a pas de solution au niveau local. On se tourne vers où? Maintenant, là, le plus facile, c'est de se tourner vers le Rwanda, c'est-à-dire par rapport aux systèmes financiers, les gens doivent trouver des solutions pour Rwanda par rapport à tout ce qu'ils ne peuvent pas avoir dans le système de fonctionnement. On va le chercher où? Au Rwanda, puisque c'est la ville qui est la ville et le pays qui est le plus proche donc de Bukavu. Et c'est ce système-là qui, pour l'instant, est en train de se passer. Et on a ce qu'on appelle toute la vie socio-économique de la ville se tourne maintenant vers le Rwanda, puisque les solutions n'existent pas au niveau donc de la RDC. Même, je peux prendre un autre exemple, puisque j'étais en contact avec des collègues à moi qui sont à Bukavu, et qui me disent clairement, même le problème de communication, par exemple, pose problème, et qui sont maintenant obligés d'utiliser les systèmes de communication du Rwanda pour pouvoir entrer dans des connexions, par exemple, échanger avec nous sur des programmes de recherche. Eh bien oui, ils sont obligés maintenant de pouvoir utiliser les moyens de communication du Rwanda, parce que c'est difficile de plus en plus de pouvoir avoir des moyens de communication stables qui puissent fonctionner. Et donc voilà un peu la situation socio-économique telle que elle se vit. Alors pour que ça puisse changer, il faudrait qu'il y ait des outils de production qui reprennent et qu'il y ait un système financier qui permette le fonctionnement et que surtout, par exemple, le fonctionnement de l'État, de tous les systèmes étatiques puissent continuer, que les fonctionnaires, les médecins, etc. Et puis il y a aussi une autre dimension qui est la question de la justice. La question de la justice, jusque-là, la justice, ce n'est pas fonctionnelle. Et quand on n'a pas une justice fonctionnelle, c'est toujours un très grand problème de pouvoir arriver à assurer la sécurité humaine de la population de cette ville. Une autre question aussi, ça a été quand même le déplacement des populations qui ont quand même quitté la ville et qui se sont réfugiés soit à l'étranger, soit en dehors. Les populations ne sont pas encore de retour. Par exemple, ceux qui sont réfugiés au Burundi ne sont pas encore de retour puisqu'il y a les frontières qui sont fermées et que c'est très compliqué de pouvoir quitter, par exemple, les camps de Bujumbura ou de Burundi pour pouvoir rejoindre les Bukavu.
Professeur Boukamama, comment vous percevez la situation sécuritaire actuellement?
Alors, au niveau de la situation sécuritaire, de ce que l'on lit dans les différents rapports, il ressort que les gens, même nos collègues avec qui nous parlons, la situation s'est améliorée par rapport à avant, où la situation est très compliquée en termes de l'existence de la personne physique, et que actuellement, la situation semble s'améliorer, et que le calme, on n'entend plus les tirs. Les gens peuvent vaquer à leurs occupations rapidement et quand c'est possible, ils peuvent encore vaquer à leur situation sans pouvoir être inquiétés. Mais ça c'est dans la ville de Bukavu. Mais lorsque l'on essaye de quitter la ville de Bukavu pour aller à l'intérieur, la situation semble un peu plus compliquée, et surtout lorsqu'on va dans les zones où il y a encore des opérations militaires. Et lorsque l'on va encore des opérations militaires, cela s'accomplique encore la situation de la sécurité humaine. Alors de ce que je sais, de ce que j'ai comme contact avec des collègues qui sont sur place de la cité civile, de ce que je lis, tous quand même me disent que la situation s'améliore et que les conditions de vie deviennent progressivement supportables supportable en dehors des problèmes de, que j'ai évoqués tout à l'heure, notamment les différentes questions de conditions de vie et d'existence, du fait qu'il n'y a pas de travail et qu'il n'y a pas de moyens financiers, qu'il n'y a pas des outils de production, pour permettre à ce que les gens puissent continuer à fonctionner normalement.
Voilà, et nous allons écouter maintenant les auditeurs qui sont en train de donner leur point de vue par rapport au, à la thématique d'aujourd'hui. Professeur Bob Kabamba, et vous gardez la parole. Hein. Donc, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu. Il s'appelle Jean-Jacques Bagabo.
Jean-Jacques Bagabo depuis Bukavu. Que dire de la situation actuelle réellement? Il s'agit d'une administration des rebelles. Nous supportons tout. C'est comme à cette date de l'entrée des rebelles, la population avait déjà perdu espoir avec la fuite des militaires et policiers, abandonnant les armes et munitions à leurs enfants au Kansayo et TP industriel. C'était le calvaire des deux jours. Personne ne sortait de la maison. La situation socio-économique actuelle est toujours difficile et les francs congolais sont perdus. Le commerce a repris difficilement. Beaucoup d'humanitaires ont perdu leur travail. Sur le plan sécuritaire, tout a été maîtrisé dans la ville de Bukavu, mais les alentours de la ville restaient toujours insécurisés. Les affrontements réguliers entre les rebelles et les Wazalendo tous les jours. Les gens continuent à mourir. Est-ce que le gouvernement congolais peut nous dire réellement là où ça bloque pour nous sortir de cette situation? Précisons ici que la population civile ne sait rien faire et ne peut jamais s'opposer à cette occupation juste pour préserver la vie.
Professeur Mokamamba.
Oui, c'est vraiment par rapport à, au contexte, vraiment, je confirme ce que l'auditeur vient de dire sur la situation socio-économique et sur la situation sécuritaire, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure. Mais l'autre question fondamentale, c'est la question liée justement à par rapport aux actions du gouvernement pour essayer que les choses puissent s'améliorer. C'est là où les populations se sentent abandonnées, du fait qu'ils ont l'impression que la population est victime au fait de la situation au lieu que Kinshasa a, on a l'impression que Kinshasa les a abandonnés et qu'ils doivent se débrouiller eux-mêmes pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes sans nécessairement tenir compte de que Kinshasa ne tient pas compte de ce qu'eux ils sont en train de vivre et de ce qu'eux ils sont en train de subir tous les jours. Et donc clairement, c'est la question liée par exemple au système bancaire, les communications, etc. Quand on prive effectivement, on coupe les liens, ce n'est pas la rébellion qu'on punit. On punit les populations. Lorsqu'on empêche la population d'avoir accès à son argent, ce n'est pas la rébellion qu'on punit. C'est la population qu'on punit. Lorsqu'on on empêche les communications que vous faites faire correctement avec les autres zones, c'est la population qui en souffre, etc. etc. Et donc, le sentiment de la population, c'est que ce qui se passe à Kinshasa, on a l'impression que les problèmes de cette partie ne le concernent pas. Et on vous dit, on répond par rapport aux négociations qui sont en train de se passer. Oui, les négociations se passent, mais les résultats par rapport aux populations sur place, il n'y a rien, il n'y a pas de résultats. Et comme il n'y a pas de résultats, on peut continuer à pouvoir exister dans le système tel qu'on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, et que ça n'apporte pas, ça donne plutôt un sentiment d'abandon.
Merci.
Le sentiment d'abandon, c'est que de l'expliquer, et qui fait en sorte qu'on cherche des solutions, et des solutions souvent à l'encontre de la consultation de l'État.
Merci. Amos Bissimo, vous allez réagir à la réflexion de l'autre auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, toujours au sud qui vous, c'est Jules Maguené.
Jules Maguené, depuis Bukavu. Et là, après la prise de la ville de Bukavu par l'AFCM-23, les tableaux sont sombres. La ville et le territoire du sud Kivu vivent dans un désarroi total. L'aéroport est hors service. Le service mobile comme M-Pesa ont disparu. Et les circuits économiques et formels se sont effondrés. Tandis que la prison centrale de Bukavu, vidée, a libéré une vague d'insécurité. Les habitants survivent par la grâce de Dieu, exposés aux tueries, aux enlèvements et aux vols à main armée. L'administration parallèle imposée accentue la misère. La population est abandonnée à son triste sort. Sa protection ni perspective. Dans ce contexte, les accords de Washington et de Doha apparaissent comme une lueur fragile d'espérance. Les partis en conflit doivent privilégier la vie des populations. Car au site Kivu, c'est l'existence même qui est en danger.
Amos Bissimo.
Je suis d'accord avec l'intervenant Jules Maguené.
Mais comme je le disais tantôt, et Bob Kabamba venait de le dire, la population de l'Est, plus particulièrement du Sud Kivu, n'a jamais choisi ce mode de vie. Nous n'avons pas de choix. Voilà pourquoi nous ne pouvons que nous adapter à la situation que nous traversons aujourd'hui. Parce que, comme tout le monde le disait, nous sommes abandonnés à notre triste sort. Je voulais revenir au propos de l'honorable Tcharangabo. Je ne sais pas s'il défend son régime, il oublia la situation que traverse les électeurs à Kalonge et qui en est l'auteur. Il a évoqué la question de fermeture de banques. Tout le monde déplore. Je tiens à signaler que l'argent qui est dans les banques n'appartient ni au gouvernement congolais ni à l'AFM 23. C'est l'argent de la population. Pourquoi alors les banques ont été fermées? Et qui les a fermées? Que Tcharangabo nous réponde. Le problème que nous avons, nous Congolais, nos politiques, au lieu de voir la misère de leurs électeurs, ils défendent des dirigeants défaillants au nom de leurs intérêts égoïstes. Et c'est un danger pour la République. Merci. Gilles Maguène a évoqué.
Allô, Amos. Voilà, encore un problème de connexion. Honorable Grégoire Mirindi, vous allez réagir à la réflexion de Gabriel Ekwalanga, qui appelle aussi depuis la ville de Bukavu, Sud Kivu.
Gabriel Ekwalanga, depuis Bukavu, Sud Kivu. Ça fait maintenant une année que la FCM 23 contrôle la ville de Bukavu, ainsi qu'une partie de la province du Sud Kivu. En tant qu'habitant de la ville de Bukavu, sur le plan sécuritaire, notre ville est calme. La sécurité est bel et bien garantie, car cela se traduit par la baisse des cas de kidnapping, des vols à main armée, baisse du banditisme urbain, ainsi que la sécurité routière. Depuis le déploiement de la nouvelle police dite révolutionnaire, on enregistre moins d'embouteillages, moins d'accidents de circulation routière. À mon avis, sur le plan sécuritaire, on ne peut que féliciter les autorités militaires et policières pour leur professionnalisme à la matière. Sur le plan socio-économique, beaucoup d'entreprises publiques et privées ont fermé leurs portes. À cela s'ajoute aussi la fermeture des banques et des structures de microfinance. En dépit de la résilience économique des Bukaviens, ils s'adaptent au rythme du moment. Les écoles et universités fonctionnent normalement.
Honorable Grégoire Mirindi.
Moi, je voudrais dire ceci. D'abord, je salue le prof Kabamba. Je crois qu'on est passé sur cette chaîne il y a longtemps avec lui. Là où il est vraiment, je le salue. Je voudrais dire ceci par rapport à l'intervention de notre ami Gabriel. La ville n'est ville que lorsqu'elle est connectée aux entités qui l'entourent. Bukavu, c'est trois communes, plus les deux communes qu'on venait de créer récemment. Mais de là, il n'y a aucun endroit où on pouvait effectuer 10 kilomètres. Mais quelle sécurité ils veulent nous dire? Donc ils veulent dire que les gens qui sont dans la ville de Bukavu sont des citoyens spéciaux par rapport aux autres qui vivent à Kabare, qui vivent à Walungu, qui vivent à Kalonge, parce qu'on en parle, Bunyakiri et consorts, Shabunda et Mwenga Fizi. La ville, tout le monde a droit d'aller dans sa ville et de rentrer. Maintenant, on a cloisonné la ville pour que ceux qui vivent dans la ville dépendent directement des pays voisins et on coupe finalement toute communication avec ceux qui sont dans la ville. Bukavu aujourd'hui est considéré comme une ville attachée au Rwanda. Et nos amis me disent non, c'est la sécurité. Un serpent entre dans votre maison, bon, parce que tout simplement, elle ne veut pas vous mordre, peut-être pour une raison ou une autre, vous acclamez, vous dites non, ça marche. Mais ça, c'est quel raisonnement ça? J'aurais aimé qu'ils me disent la même chose si l'armée rwandaise arrivait à Kinshasa et qu'ils me disent non, c'était bon, la ville est devenue propre. Être propre, c'est un comportement normal, ou être sale, ça peut s'éduquer, ça peut s'échanger. Ce sont des choses que l'État lui-même peut prendre en charge. On n'a pas besoin d'avoir un État étranger sur son territoire pour être propre. Là, c'est la première chose que je voudrais épingler. Sinon, toutes les autres choses ici dont il parle. À Bukavu, l'abraliment, c'est l'unité, je dirais, centrale sur le plan économique. C'est par là où le pillage a commencé. Bralima vend, revend. Il y a beaucoup de millions et des millions de familles qui vivent de la Bralima. On a mis la croix à la Bralima. J'ai appris finalement que je parle sous réserve, que Bralima va réouvrir, mais ça ne sera plus Bralima. Il va ouvrir sous le label de Bralima au Rwanda. Et que donc, ceux qui veulent avoir des produits Bralima à Bukavu, ils doivent aller payer dans des banques au Rwanda. Ça reste à vérifier, mais j'ai appris ça. Les hôtels, tous les hôtels à Bukavu sont occupés. Il reste à savoir si les tenanciers des hôtels reçoivent leur dit. Ça, c'est une autre question. Mais les rapports que nous avons, c'est que... Par ceux qui ont la ville.
Ceux qui contrôlent la ville.
Ceux qui contrôlent la ville. Alors, il reste à savoir, moi, je ne vais pas peut-être faire un procès d'intention. Si les propriétaires de ces hôtels-là sont payés, bon, on verra, la guerre va se terminer bientôt, on saura. Mais à Bukavu, les gens ne vivent pas contrairement à ce qui... Les gens vivotent. À Bukavu, nous sommes des agriculteurs, nous sommes des éleveurs. La vache n'aime pas l'arme. L'agriculteur n'aime pas l'arme. Même si l'agriculteur cultivé, il n'a plus une ville. Bukavu n'est plus une ville de la province. Bukavu, c'est une ville déjà annexée à un autre pays. De quoi on nous parle?
Voilà.
Même quand il me parle, en tout cas, je ne vais pas laisser ça, cette histoire-là passer. Et parce qu'Amos, chaque fois qu'il intervient, il me cite. Moi, je voudrais dire à Amos, il n'y a personne, je ne connais pas peut-être son village, il n'y a personne parmi ceux qui interviennent dans cette émission qui sent cette guerre dans la chair et dans l'os et dans les sangs que moi. Il essaie, il parle des calongues, il sait de quoi il parle. Il sait comment nous subissons les coups. Ce n'est pas parce que nous ne passons pas sur des chaînes que... Hein? Moi, j'ai dit que les problèmes sont structurels. Je n'ai pas dédouané le régime. Le régime est responsable de la sécurité, de l'ordre public, de la tranquillité publique, de la fidélité publique. Ça, le régime est conscient. Mais moi, j'ai dit que ce pays a toujours eu des problèmes structurels et on n'a jamais laissé à aucun régime le temps de trouver des solutions aux problèmes que la traite nous a légués, aux problèmes que la colonisation nous a légués, au problème que l'esclavagisme nous a légué, au problème que le colonialisme nous lègue, et même à une constitution à géométrie variable que nous avions à Saint-Cité. Alors, chaque fois qu'il y a un dirigeant qui arrive, non, il y a toujours à le dire. Qu'il me donne un seul président à qui on a applaudi à 100% dans ce pays.
Merci, merci. Nous allons passer maintenant, nous tendons vers la fin de l'émission, on va conclure. Et professeur Bob Kabamba, au vu des différents processus d'épée, notamment Washington, Doha, Rwanda, Lomé, comment vous entrevoyez l'avenir par rapport à la ville de Bukavu?
Malheureusement, je ne saurais pas être très pessimiste par rapport à ce que l'on pourra dire par rapport à la ville de Bukavu. C'est que la situation ne va pas du tout s'améliorer, ça va plutôt continuer à s'empirer, puisque tout le système qui est mis en place en termes de vouloir la paix s'est mis dans des conditions d'improvisation, de lecture non claire. On a toute une série de processus et chaque processus n'aboutit absolument pas à apporter des solutions. Washington, Doha, Luanda, Lomé, et que sais-je encore, tous ces processus, quand vous laissez les analyser les uns après les autres, vous arrivez à la même conclusion, c'est que les décisions sont prises, les décisions ne sont pas mises à l'œuvre. On prend une décision aujourd'hui et le lendemain, on a changé de position et donc la situation, je ne pense pas qu'elle va s'améliorer s'il n'y a pas ce qu'on appelle un changement des rapports de force sur le terrain. Et s'il y a un changement de force sur le terrain, à ce moment-là, effectivement, il pourrait y avoir changement. Si l'état, les choses restent dans l'état, donc les populations, malheureusement, vont continuer à souffrir et à essayer de trouver d'autres solutions pour leur survie.
Merci. Amos Bissimoi, un mot en guise de conclusion. Voilà. Honorable Amos Bissimoi, vous êtes là? Honorable Grégoire
Mirin.
Voilà, un mot à guise de conclusion. Votre mot de la fin.
Merci. Je voudrais dire par rapport au processus de Washington et Doha, comme on l'a dit, et partout ailleurs, aucun État sérieux au monde, au lieu d'organiser son armée, il part donner ses minéraux pour exploitation à plus de 90 pas, pour qu'il ait la sécurité. Demain, si le Soudan nous attaque, si l'Égypte nous attaque, on va donner quoi? On va finir par donner même les personnes. Moi, je pense que le régime de l'honorable devrait réfléchir, devrait comprendre que la population du Sud Kivu, de net, aurait été sacrifiée et nous n'avons pas de choix.
Merci.
Nous n'avons pas de choix.
Merci,
nous n'avons pas de choix parce que nous sommes en face de dirigeants qui
ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités.
Merci à mon service. Moi, Grégoire Mirindi Tcharangabo, vous allez s'y conclure. Hein. Les habitants de Bukavu vous souhaitent que Washington et Doha puissent permettre, n'est-ce pas, le rétablissement de la paix dans la partie orientale du pays. Votre point de vue, ça sera sous votre conclusion.
Moi, je suis optimiste, mais la seule crainte que j'ai, c'est que, comme ça a été le cas à Sun City, le grand meneur du jeu, les pays impliqués ne sont pas compris dans les processus. Même si on a signé des accords avec le Rwanda sur le plan bilatéral, mais par rapport au dialogue, tous les États là qui nous agressent, à quel niveau ils interviennent pour qu'ils se mettent face à face de leur bourreau, hein, de leur victime plutôt. Donc il y a ces problèmes là qu'il faut résoudre. Le format, les participants, les États qui nous agressent, à quel niveau ils répondent, à quel moment et dans quel contexte et dans quel processus ils nous disent à côté des Congolais leur vrai problème pour que finalement cela soit pris en compte sous forme de résolution dans les dialogues à venir. Merci. Sinon, si nous attendons entre nous et que le problème reste entier auprès des États étrangers, donc la situation va encore rebondir et puis nous ne serons pas au bout de notre peine.
Merci, c'est par là que nous mettons fin, n'est-ce pas, à cette émission. Merci à vous tous, Grégoire Mirindi Tcharangabo, Amos Bisimwa et professeur Bob Kabamba. Merci à tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé et à Didonie Nyangasa et Pierre Diassinoa qui était à la technique et à Chembe Eloku qui a assuré les lives de cette émission à la présentation. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Capi.
Autour d'une table, ma famille réunie.